Ici, Moscou. À propos, avec Alexandre Artamonov.
Complot anglo-saxon contre la langue française. L'ambassadeur Albert Salon s'est fait avocat et chantre de la langue française. La langue est en péril parce que méprisée par les biatlantistes qui élèvent leurs enfants dans l'esprit de l'hégémonie américanophile. La culture des provinces et l'esprit du terroir sont lettres mortes pour ces nouveaux maîtres du monde vivant à l'heure du globalisme. Nous avons demandé à M. Salon en quoi, selon lui, consiste le danger et comment défendre la langue, vecteur originel de la culture de la douce France.
Il s'agit du monde entier, il s'agit de deux choses. Il s'agit d'abord de la langue française en France, c'est-à-dire de son affirmation, pas seulement de sa défense, de son affirmation, et puis de la francophonie dans le monde, c'est-à-dire de la francophonie au sens langue française établie encore un peu partout sur les 5 continents, et d'autre part francophonie avec un grand F, c'est-à-dire l'organisation de la francophonie, que l'on appelle d'ailleurs l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Voilà nos préoccupations.
Le français cède-t-il le terrain par rapport à l'anglais, Monsieur Salon ?
Eh bien écoutez, l'évolution des langues, c'est quelque chose qui se produit tout au long de l'histoire et qui va continuer naturellement. Bon, alors l'anglais est actuellement dominant, pour les raisons que l'on connaît tous, il est dominant, incontestablement. Le problème pour nous n'est pas, comment dirais-je, de rejeter l'anglais et de rejeter les Anglais, les Anglo-Saxons et les Américains en particulier, c'est-à-dire les Nord-Américains, pardon, les États-Unis, on devrait dire, en particulier, mais de rejeter leur hégémonie. C'est ça notre problème. Donc d'éviter, en ce qui concerne la France, que le français en France soit remplacé par l'anglais. Or, c'est ce qu'un certain nombre de nos élites voudraient. De nos élites, que Michel Serres appelle les collabos de la pub et du fric, il en existe aussi en Allemagne, en Espagne, dans tous les autres pays, au fond, européens surtout, parce que c'est le continent européen qui est en passe d'être vassalisé par ce moyen et par d'autres. Voilà ce dont il s'agit pour nous. Alors, lutter contre l'hégémonie, empêcher l'effacement, l'écartement, la mise à l'écart, la mise sur la touche de la langue française en France et dans tous les espaces qu'elle occupe ailleurs dans le monde naturellement. Voilà. Parce que c'est un vaste complot. Il y a nos collaborateurs de la pub et du fric, comme les appelait Michel Serres.
Oui.
Michel Serres. Mmh. Qui sont à l'œuvre et qui sont très actifs, mais il y a derrière l'Empire anglo-saxon lui-même, je l'appelle l'Empire, la Sainte Alliance nouvelle des anglo-saxons et aussi des germains, il faut bien le dire, au sens large du terme, qui veulent imposer l'anglais partout. Voilà, comme moyen de domination.
Tout à
Alors,
fait.
C'est contre ça que nous nous insurgeons.
Qu'est-ce que vous entendez par la défense de la langue française en France ?
Si les gens veulent chanter en anglais, c'est pas seulement leur problème, c'est aussi le nôtre. Mais ce que nous voulons, c'est maintenir la langue française dans toutes ses fonctions, et notamment dans ses fonctions vitales, principales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'écarter des médias, il ne faut pas l'écarter de la science et de la recherche. Or, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il ne faut pas tendre à vouloir l'écarter de l'enseignement, comme Mme Fioraso a voulu le faire en ce qui concerne l'enseignement supérieur, que l'on voudrait passer à l'enseignement en anglais dans nos universités et nos grandes écoles, ce qui est quand même un comble.
Oui.
Voilà, c'est ça notre problème.
Vous êtes nombreux, avez-vous des collaborateurs peut-être ?
Eh bien, écoutez, nous avons notre association proprement dite, Avenir de la langue française, celle que je préside, la principale de celle que je préside, et là, 400 membres cotisants fidèles, si vous voulez. Voilà, bien. Mais il y a un conseil d'administration composé de gens actifs. Toutes les associations en général ont un mal, si vous voulez, c'est qu'il y a très peu de gens réellement actifs et beaucoup de gens qui suivent ou qui font semblant de suivre ou qui, lorsqu'ils cotisent, c'est déjà pas mal. Bon, là, notre association a ceci de particulier, c'est qu'elle a bon nombre d'actifs et de militants, de vrais militants. Voilà. Donc c'est un premier point. Alors, ce qu'elle a fait, cette association, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être son mérite principal, c'est d'avoir réussi, tout en respectant mais totalement l'indépendance des autres associations qui existent dans ce domaine, parce qu'il en existe pas mal, c'est de faire avec elles une synergie. C'est-à-dire que tantôt l'une, tantôt l'autre, souvent à venir dans la langue française, prend l'initiative d'une grande action et les autres suivent. Les autres s'y mettent au cas par cas, elles s'y mettent ou elles ne s'y mettent pas. En général, depuis plusieurs années, elles se mettent dans les mêmes grandes actions. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, de lutter contre le funeste article 2 de la loi Fioraso dont je vous parlais il y a un instant sur la réforme de l'enseignement supérieur, nos 32 associations françaises étaient au coude à coude, agissaient ensemble. Elles ont fait d'ailleurs beaucoup de... C'est elles qui ont lancé la campagne médiatique contre cette affaire. Et finalement, avec l'aide de hautes personnalités, aussi bien à Gège que à Thaly, que Compagnon, que les quatre académies, que quatre des académies en France existantes, dont l'Académie française au premier chef, on a remué tout le monde, si vous voulez, droite, gauche et centre, tout ce qu'il y a de patriotes encore dans ce pays, pour protester contre cette forfaiture, parce qu'il s'agit d'une vraie, véritable forfaiture, et du président de la République, puisque c'est son gouvernement qu'il s'agit, et même Fioraso en particulier, c'est bien évident. Alors nous avons réussi à faire en sorte que des députés agités par tout cela, par le bruit médiatique fait autour de cette affaire, déposent des amendements, imposent aussi des amendements au texte proposé par Mme Fioraso, qui était une ouverture complète des vannes dans l'enseignement en anglais, dans l'enseignement supérieur, grandes écoles et universités, n'est-ce pas ? De même, nous lançons une grande campagne, mais avant de vous parler de la campagne que nous lançons sur les communes de France, je vais vous parler de ce que nous avions déjà fait pour vous situer l'importance et à l'adresse du public russe de ce que l'on peut faire sur le plan associatif dans un ensemble plus ou moins démocratique de nos démocraties occidentales ou autres. Nous avons commencé par mettre la francophonie dans la Constitution. Lorsque nous nous sommes créés en 92, c'était l'époque du débat sur Maastricht, où on introduisait en fait l'Europe dans la Constitution française, ça revenait à ça. Eh bien, nous sommes dit, il faut introduire des contrepoids, c'est-à-dire d'une part la langue française et d'autre part la francophonie, précisément, comme espace communautaire auquel la France doit participer, auquel la République doit être étroitement associée. Alors nous avons réussi à faire introduire dans la Constitution, par nos amis parlementaires bien sûr, la phrase dans l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. Et ça, nous avons pu bâtir là-dessus ensuite, parce que c'est vital que ce ait été introduit dans la Constitution. Et nous avons essayé d'introduire, en 92, toujours à la même occasion, la francophonie dans la Constitution par une simple phrase, « La République participe à la construction d'un espace francophone de solidarité et de coopération ». Là, nous avons échoué, mais nous avons réussi 16 ans plus tard, puisqu'en 2008, ça a été enfin introduit dans notre Constitution. Ça, c'est nos actions interassociative, collective, pour quelque chose qui est quand même assez fondamental. Après le 92, nous avons, sur la base de la langue de la République et français, cette fameuse phrase de l'article 2 que nous avons fortement contribué à faire introduire, nous avons aussi lancé la première esquisse de ce qui est devenu la loi Toubon sur l'emploi de la langue française en 94. Donc dès 92-93, nous sommes mis au travail. Nous avons travaillé avec le cabinet de Madame Tasca, donc de gauche, au temps de Jospin, là-dessus. Puis lorsque le changement de gouvernement est intervenu en 93, nous avons remis l'ouvrage sur le métier avec le cabinet de Jacques Toubon, ministre successeur de Madame Tasca, et c'est devenu la loi Toubon du 4 août 94. Voilà ce que nous avons réussi à faire. Nous avons fait encore bien d'autres choses, si vous voulez. Et dans ce sillage, nous sommes en train de lancer une grande campagne pour mobiliser la Vox Populi.
Un peuple se définit par sa langue. Si celle-là disparaît, c'est que l'atomisation devient irréversible et une ethnie se meurt. Le latin a vécu et depuis belle lurette, langue morte. Pourvu que le français ne prenne pas ce chemin au nom des technocrates internationalistes. Alexandre Artamonov, La Voix de la Russie.